Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment.
Témoignage. Parti pris. Coup de gueule. Bienvenue dans Chronique d'un quadrat, le podcast sans langue de bois qui décomplexe les sujets complexes.
Il y a un adage qui dit qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime, mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal.
I make a line of different money. Travel but not as I fit the summer. Finesse at the blubber, I'm getting blinded. Caliber, caliber, caliber. Caliber, caliber, gives a body. Caliber, caliber, seeks a body. Caliber, caliber, rips a body. Caliber, caliber, caliber. I make a line of different money. All my kids pull up and be getting blinded. Finna drink up the money, I'm getting mighty. Caliber, caliber, caliber. Caliber, caliber, is a body.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique d'un quadrat, le podcast qui décomplexe les sujets complexes. Et bien cette fois-ci, il est décomplexe en mode classe business. Voilà. Donc je vous donne un petit peu les tenants et les aboutissants parce que vous aimez ça en fait. On est dimanche soir et je suis en déplacement professionnel et j'aimais, voilà, je fais un petit, on va dire une petite référence à l'époque de la radio libre, voilà, de la radio pirate. Donc j'aimais, donc au niveau transmission, émettre des ondes, j'aimais en terre montpelliéraine, mais on reste en Occitanie, hein, donc on se déplace à 2h30 de route et on est confortablement bien installé à l'hôtel. Là, j'ai commandé un whisky, il est arrivé en chambre, donc je peux attaquer cet enregistrement de Chronique d'un quadrat où je vais tester, on va dire, une nouvelle approche, parce que ça, je l'avais en tête aussi, de prendre des exemples littéraires, cinématographiques, musicaux, et de me livrer à l'exercice de l'analyse de cette œuvre, non pas au travers du prisme du cinéma, de la littérature et de la musique, mais plutôt de ce que ça peut raconter de notre société, des relations homme-femme à un instant donné. Et des fois, c'est prémonitoire. Donc, ça va être le cas du film dont je vais parler, en fait, dans cet épisode. Et du coup, pour refermer le côté enregistrement en déplacement en terre montpelliéraine, j'en profite aussi pour faire un petit coucou aux Montpelliérains et aux Montpelliéraines qui m'écoutent. Voilà, les salutations sont passées. On peut attaquer le vif du sujet. Alors, c'est vrai que si on regarde un petit peu la YouTube sphère, si on regarde la podcast sphère également, beaucoup en fait de contenus sont produits en analysant une œuvre. Alors, les trois quarts du temps, le côté un peu putaclic de la chose, c'est quoi? C'est prendre un fait d'actualité du moment ou un qu'en dira-t-on d'une autre chaîne ou d'un autre podcasteur, d'appuyer sur le bouton play et de commenter au fur et à mesure. Voilà, ça permet de pas faire trop d'efforts, on va dire, en termes de création et de réflexion et de surfer sur l'algorithme. Voilà. Donc, dans ce game-là de podcasteurs, de youtubeurs, quand ça parle un petit peu du contexte masculin sociétaire actuel, donc ça veut dire le statut des hommes d'aujourd'hui, ils ne sont plus ce qu'ils étaient, et souvent ils s'appuient en fait sur des œuvres cinématographiques et on dirait qu'ils les ont découvert la veille. Voilà. Donc ce qui remonte les trois quarts du temps, ça va être un film comme Fight Club. Voilà. Donc, film, je le rappelle, adapté des écrits de Chuck Palahniuk, qui était déjà sorti 10 ans avant, donc début des années 90 pour l'œuvre littéraire et fin des années 90 pour l'œuvre cinématographique. Donc oui, effectivement, quelque chose comme Fight Club résonne aujourd'hui, on va dire, allez, c'est 98, quasiment plus de 25 ans après sa sortie, mais il y a d'autres œuvres aussi qui résonnent et des fois on n'aurait pas aimé qu'elle résonne. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi ce que j'adore avec le cinéma, parce que rappelez-vous qu'à la base je suis podcasteur ciné, que j'enseigne l'analyse filmique, que bah, c'est ma passion première, c'est ce qui a fait que je fais mon métier, et j'ai consommé énormément de films, bon j'en consomme toujours, mais peut-être un peu moins aujourd'hui, parce que j'ai vu, on va dire, j'ai pas vu tout ce que le cinéma a produit, j'ai vu tout ce qui m'intéressait de voir, donc c'est vrai qu'il y a certaines œuvres que j'ai découvert ado, qui m'ont plutôt fait rigoler, mais j'étais loin de m'imaginer que la blague du film, en fait, deviendrait une réalité. Et Demolition Man en fait partie. Donc voilà, c'est assez rigolo. Donc il y a deux films qui vraiment, quand j'évolue au quotidien, donc au fur et à mesure des mois et des années qui passent, où je me dis, mais en fait, on n'est pas loin d'y être. Donc il y a Demolition Man et il y a Idiocratie. Alors Idiocratie est un peu plus sur le ton de la satire, c'est un peu plus grossier, mais il y a quand même certaines idées de fond d'Idiocratie qui ont tendance à être prémonitoires. Par contre, le concept développé dans Demolition Man, quand ça sort, on remet un petit peu les plots d'usage, hein, quand ça sort en 1993, les gens qui vont le voir en salle, j'en faisais partie, hein, donc moi je suis né en 80, donc j'avais 13 piges hein, quand j'ai vu ça, d'ailleurs je crois que je l'ai même pas vu en salle, je crois que je l'ai vu en VHS, et... On réceptionnait ça, on se marrait, on se dit mais non, c'est pas possible que ça parte en sucette comme ça. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est très possible. La preuve en est. Donc, tout le concept de cet épisode, ça va être dans un premier temps, de vous présenter l'œuvre et en quoi elle a une particularité prémonitoire aujourd'hui, malgré elle. Et au fur et à mesure, au travers d'extraits bien choisis, ce film en dit long. Et c'est ça qui est fou. Hein. Dans sa connerie, ce film en dit long sur l'état actuel de la gente masculine et des relations entre les hommes et les femmes. Tiens, j'arrive à le sortir. Donc voilà, donc il y aura plusieurs parties, et bien entendu, j'entrecouperai d'extraits pour vous fassiez votre propre idée, parce que j'imagine que certains et certaines n'ont pas vu cette œuvre. Donc voilà, et j'espère que ça vous donnera aussi envie de la voir, parce que au-delà du côté prémonitoire fantasmé de cette société futuriste, ça reste quand même un sacré putain de film d'action, et de l'avoir revu dernièrement, ben, ça me le rappelle encore une fois en fait, hein. Voilà, donc c'est un film que je vous conseille pour les fêtes, un truc qui s'appelle Demolition Man, voilà. Bon, alors on va mettre les plots d'usage, et bien entendu pour ceux et celles qui écoutent déjà mes exactions vocales sur 7ème dimension, le but n'étant pas d'analyser l'œuvre cinématographique en elle-même, moi ce que je veux analyser c'est le message de fond, et voir en quoi il résonne aujourd'hui, voilà, et vraiment, c'est bluffant. Donc, Demolition Man, c'est un film qui arrive dans une période de creux de la carrière de Sylvester Stallone. Hein. Bon, j'imagine bien que vous connaissez Stallone. Alors, même si vous ne le connaissez pas, la génération Z, il y a des docus sur Schwarzenegger et Stallone sur Netflix. Donc, maintenant, vous devez savoir qui c'est. Sylvester Stallone, c'est Rocky Rambo. Voilà. Et donc, en 1993, il va enchaîner deux films coup sur coup qui vont relancer, en fait, la décennie des années 90 qu'il avait mal entamée. Donc, c'est-à-dire qu'en 93, sort Demolition Man et Cliffhanger, voilà. D'un côté, il a un flic bourrin décongelé et qui agit dans le futur. De l'autre, il est un alpiniste bien vénère qui, voilà, spoiler alerte, qui laisse tomber les copines de ses meilleurs amis, voilà, quand elles font de l'escalade. Voilà. Donc ça, c'était pour Cliffhanger. Donc, en 1993, il signe pour Demolition Man, donc le film sort, c'est réalisé par le réalisateur Marco Brambilla. Alors Marco Brambilla, il a pas fait grand chose, hein, voilà, il a fait un autre film qui s'appelle Excess Baggage, et puis derrière en fait c'est, alors avant ça c'était un réalisateur de c'était un pubard, hein, c'est-à-dire un réalisateur de pub, et aujourd'hui voilà, il fonctionne en fait en mode exposition, voilà, c'est quelqu'un qui va être plutôt dans la création d'œuvres visuelles un peu ronflantes, un peu bobo, un peu bourgeoise, voilà. Donc on n'est plus du tout dans le cinéma, voilà, sa seule œuvre marquante donc c'est Demolition Man, et Demolition Man ça met en tête d'affiche Sylvester Stallone, donc c'était un véhicule pour cette star des années, alors j'ai envie de dire les années 80, mais c'est aussi une star des années 90 et star des débuts des années 2000, on va dire cette star d'action, cette icône d'action emblématique. Et ça fonctionne aussi un peu en mode buddy movie. Un buddy movie, c'est quoi ? C'est d'avoir un personnage opposé, que ça soit le vilain ou le coéquipier. Et c'est vrai qu'en y mettant une autre star, qui à l'époque est montante dans le cinéma d'action, ils mettent en face de lui, dans le rôle du bad guy, Wesley Snipes. Voilà. Alors, Wesley Snipes, vous avez vu dans le cinéma de Spike Lee. Et c'est aussi quelqu'un qui, à cette époque, n'arrêtait pas d'enchaîner des films d'action marquants. Notamment, il est connu à l'époque pour être le fameux passager 57 du fameux avion détourné et que lui se met en tête de retourner dans le bon sens avec les méchants en tête. Et pour le côté love interest de la chose, parce que c'est un film qui fonctionne en trio, nous avons l'actrice Sandra Bullock. Et oui, Sandra Bullock, qui d'ailleurs est un troisième rôle dans ce film-là et qui explosera l'année d'après aux côtés de Keanu Reeves pour un film qui s'appelle Speed, avec un bus lancé à pleine vitesse qui ne s'arrête jamais. Donc ça aussi, très bon film d'action. Alors, de quoi parle Demolition Man et pourquoi moi je décide en fait d'en faire un podcast dans une chambre d'hôtel un dimanche soir en ayant décuvé de la veille, hein ? Pourquoi j'ai décidé de faire ça ? Pour la simple et bonne raison que plus ça avance, et plus je me dis, mais putain, mais on y est, quoi. On est dans ce film, et que raconte ce film ? Alors, le plot de départ, c'est un film tourné en 93, mais il est déjà légèrement futuriste, parce que son action principale, enfin, tout du moins au début, commence en 1996. Donc on y voit le lieutenant Spartan, voilà, donc ça ne s'invente pas, hein, c'est presque de l'Aspartan, le gars. L'inverse de la Spartan. Donc on y voit John Spartan, voilà, ça c'est des noms que tu peux avoir que dans les films d'action des années 80-90, John Spartan, voilà. Donc voilà, pour Commando avec Schwarzenegger, vous avez John Matrix, voilà, donc là on a John Spartan, qui est aux prises, voilà, ça démarre in medias res, c'est-à-dire directement dans l'action. On y voit un Sylvester Stallone bodybuildé, tout muscle bandé, béret vissé sur la tête, t-shirt noir, gilet pare-balles, treillis, chaussures de soldat, on est en place, arme à la main, et il est à la poursuite, on va l'apprendre très rapidement, du bad guy Simon Phoenix, incarné par Wesley Snipes. Et Wesley Snipes, dedans, il a un look de fou furieux, c'est-à-dire qu'on dirait, alors pour ceux qui ont suivi le basket à une époque, c'est Dennis Rodman. Voilà. Alors, j'ai presque envie de dire, parce qu'à cette époque-là, oui, on peut raccrocher les wagons, on ne sait pas si Dennis Rodman s'est inspiré de Wesley Snipes ou l'inverse, mais en tout cas, c'est Dennis Rodman, et déjà, on peut se rendre compte que l'acteur Wesley Snipes bouffe l'écran. Donc, ça déborde, ça suinte de testo par tous les pores de votre écran quand vous lancez. Alors après, c'est volontairement... Alors, gardez en tête que ce n'est pas un pastiche. Là où aujourd'hui, on pourrait regarder le dernier Expendables, notamment le numéro 4, on pourrait se dire, oui, c'est un pastiche de ces films-là, eux, ils sont premier degré, même s'ils exagèrent un peu, même si c'est bigger than life, alors bigger than life, c'est-à-dire que c'est plus gros que la vie, ça veut dire que même si, la, en termes de situation, et ce que, on va dire, nos hommes soja d'aujourd'hui diraient, mais c'est pas possible ce qui se passe dans le film, voilà. Effectivement, oui, c'est pas possible, mais on s'en fout. Voilà. D'ailleurs, sachez quand même que le film terminal sur cette chose-là est un film avec Schwarzenegger, ça s'appelle Last Action Hero, et ça sort quasiment à la même époque. Voilà. Si je dis pas, c'est à 6 mois ou un an près. Voilà. Donc, on y voit John Spartan aux prises avec Simon Phoenix, ça se passe dans un immeuble, et effectivement, il est méchant, Simon Phoenix, parce qu'il a des otages, Stallone, on va dire Spartan, cherche les otages, il ne lui dit pas, le bâtiment pète, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que sa hiérarchie le met à pied, pour cette... on peut pas même pas dire une bavure, je crois qu'il y a 80 morts ou un truc comme ça. Bon, voilà. Oui, on va prendre le mot bavure. Pour cette énorme bavure, donc voilà, il est mis au banc par sa hiérarchie. Et donc, du coup, à la fois Simon Phoenix et à la fois John Spartan... Le nom est génial, John Spartan. Donc... en 1996, en tout cas pour ce futur-là qui maintenant est quasiment une dystopie, hein, vu que je suis en train d'enregistrer un podcast là-dessus et qu'on est en 2024. Donc, 2024, putain, le mec, il voyage dans le temps. On est en 2023, enfin bon, fin 2023, début 2024, vous avez compris l'idée. Donc, il est jugé coupable, et comme Simon Phoenix, au lieu d'être incarcéré dans une prison, ils sont cryogénisés. Voilà, c'est la peine, en fait, qui est choisie par cette société futuriste, décrite par le film, c'est-à-dire que on cryogénise, en fait, les malfaiteurs, et pendant ce temps de cryogénisation, on va leur insérer des programmes de réhabilitation pour qu'une fois qu'ils soient décongelés, ils puissent se réinsérer dans la société. Voilà, c'est à peu près ça le plot de départ. Voilà. Donc, bond en avant fait par le film, on se retrouve, donc l'action prenait place à Los Angeles, et là on se retrouve en 2032 à San Angeles. Voilà, ce qui est la contraction entre San Andrea et Los Angeles, parce que, entre-temps, bien entendu, le fameux Big One, c'est-à-dire le grand tremblement de terre qui est lié à la faille sismique, voilà, qui fait trembler les États-Unis depuis de nombreuses décennies, parce qu'ils y pensent à ce fameux Big One qu'il pourrait arriver et qu'il pourrait détruire la côte ouest. Donc voilà, donc effectivement, ce fameux Big One est arrivé. Et une nouvelle ville a été reconstruite, voilà, une nouvelle cité, qui est la contraction entre San Andrea et Los Angeles, ça donne San Angeles. Voilà. Et donc, on est en 2032, et la société qui nous est dépeinte est incroyable. Donc, c'est-à-dire que c'est incroyable. On est... voilà, moi, quand je vois ça avec les potes, quand j'ai 13 piges, on rigole, on se dit, mais c'est pas possible. À quel moment manger de la viande rouge, ça va être interdit ou c'est pas conseillé pour la santé? À quel moment dire des gros mots, on prend des amendes? Et effectivement, effectivement, quand nous est décrit, en fait, c'est pour ça que le film, en fait, il est savoureux à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il est savoureux pour le côté action, mais il est surtout savoureux pour la société qui nous dépeint, surtout société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est ça qui est fou furieux. Voilà. Et je traiterai certains angles avec sérieux de ce film-là, parce que sous ces airs de film débilo bourrin, c'est peut-être l'un des films les plus intelligents sur un futur décrit. Voilà. Donc dans les futurs décrits, comme par exemple si vous preniez Retour vers le futur 2, beaucoup de choses qui sont dans Retour vers le futur 2 ont nourri un petit peu l'état d'esprit des gens qui le regardaient, notamment des jeunes ados, et leur ont donné envie peut-être de faire ces inventions plus tard, en fait. Donc il y a toujours ce côté où la fiction nourrit la science et inversement, et la science nourrit la fiction, en fait, hein. Donc c'est de là que vient la science-fiction, c'est le mec qui sort des théories ronflantes que tout le monde connaît, mais voilà, il y a tout ce côté-là. C'est à se demander des fois, est-ce qu'on aurait toutes les inventions qu'on a aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les écrits de Jules Verne? Et s'il n'y avait pas eu ces inventions, peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'autres écrits, et ainsi de suite. Voilà, donc l'un nourrit l'autre et inversement. Et effectivement, c'est à se demander quand même si nos gouvernements, nos oligarchies actuelles, ne seraient pas dit que le monde de Demolition Man, c'est plutôt une bonne idée. Voilà. Après, bien entendu, son inspiration, parce que bon, il n'invente rien, il fait juste des petites digressions sur des notions déjà vues bien avant dans Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley. D'ailleurs, le personnage de Sandra Bullock s'appelle Lenina Huxley. C'est pas pour rien. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit hommage. Et d'ailleurs, il y a même une réplique de Simon Phoenix, c'est-à-dire le personnage du bad guy de Wesley Snipes, envers John Spartan qui lui dit tu voudrais quitter Le Meilleur des Mondes. Voilà. Donc, voilà, c'est infusé à l'intérieur. Alors, ce qui est fou, c'est que les scénaristes, je ne les ai même pas marqués parce qu'il n'y a même pas de quoi relayer d'infos. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire, je crois. Enfin, voilà. C'est ça qui est bluffant avec ce film, c'est que autant le réal n'a rien fait derrière, le scénariste sort de nulle part. Tu te demandes, voilà, c'est une conjonction d'énormément de choses, le hasard qui fait bien les choses, en fait, par rapport à cette œuvre-là. Donc, que se passe-t-il? Donc, on nous décrit un monde futuriste. Et dans ce monde futuriste, en fait, du coup, ce qui va... y a une dictature, voilà, parce que alors, c'est nous comme ça qu'on le lit, il y a une dictature de la bienveillance, de la bienséance, et que tout ce qui va être, on va dire, lié, et c'est pour ça que le film est intéressant, c'est-à-dire que si on part du principe, voilà, si on part du principe que le sport de contact, que la viande rouge, que toutes ces choses-là sont liées au côté testostérone, au côté masculin, il y a une volonté, en fait, dans cette société futuriste, d'annihiler, en fait, toute forme, alors eux, ils appellent ça violence, mais plutôt... il y a une volonté d'annihiler le côté testostéroné des choses, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire que dans la société qui nous est dépeinte, voilà, parce qu'on le voit très rapidement, on y suit le personnage de Sandra Bullock, qui est une flic, une femme flic, et qui s'ennuie. Donc, elle est au volant de sa voiture électrique, en conduite automatique. Voilà, donc déjà, on anticipe. Alors bon, il fallait pas non plus se lever de bonne... Voilà, c'est... à un moment donné, ils n'ont pas réinventé la roue non plus. C'était la suite logique, mais c'est intéressant parce qu'on y voit déjà nos Tesla autonomes, voilà. Donc, et d'ailleurs, pour un film de 93, les effets n'ont quasiment pas vieilli, ça le fait plutôt bien. Alors, j'en profite aussi pour me rafraîchir avec ce fabuleux breuvage livré en chambre. Et aussi que croquer un glaçon, si c'est important de croquer un glaçon. Donc effectivement, on y voit ça, on y suit Lenina Huxley, qui s'emmerde. Voilà. Elle s'emmerde, et elle aurait besoin d'action. Voilà. Elle a envie de l'action, elle se fait chier. Voilà. Et on y voit très rapidement que déjà, pour se dire bonjour, ils mettent les mains, ils laissent un petit écart, et ils font des petits tourniquets avec les mains. Voilà. Ça ne vous rappelle rien ? Voilà, donc déjà, il y a de la distanciation, donc ils ne se touchent pas, et tout le monde est très cordial, et à chaque fois, tout le monde s'appelle par son nom et son prénom en même temps, on se croirait au collège, et on voit déjà que cette jeune femme-là, comme elle s'emmerde, elle a aussi un passe-temps, c'est-à-dire qu'elle collectionne, en fait, toutes les choses qui sont issues des années 80, parce que pour eux, les années 80-90, c'est la violence. Voilà. Et donc, elle est, du coup, attirée par ce côté un petit peu brut de décoffrage, c'est-à-dire, quelque part, on va pas se mentir, les vrais hommes. Voilà. Et c'est rigolo, parce que ce côté-là, parce que je le développerai un peu plus, c'est ce qu'on observe, généralement, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour vous faire un petit peu le plot, il y a une scène très rapide où on y voit l'acteur Benjamin Bratt, oui, pas Pratt, Bratt, parce qu'il y a les deux existent, hein. Il y a Benjamin Pratt et Benjamin Bratt. Il y en a un, il est portoricain, et l'autre, il n'a rien à voir. Donc voilà, là, on a la version portoricaine, Benjamin Bratt, et lui, donc, c'est plutôt un grand gaillard, donc un bon 1m90, bien bâti, etc. Et en fait, il est tout fragile. C'est-à-dire que quand elle lui dit « Oh, j'aurais besoin d'un peu d'action », et lui, il fait « Oh, mais grand Dieu, non, moi, non, je ne veux pas ça. » Et tu vois, le mec s'affaisse, et il l'observe, et il la regarde bizarrement, et il est très dans la bienveillance, et on comprend très rapidement, voilà, que si des fois il avait dans l'idée de la pécho, il n'y arriverait jamais. Voilà, vous avez compris déjà cette idée très rapidement. Donc, on assiste au réveil de Simon Phoenix, comme par hasard, alors ça c'est le plus grand des hasards, il est réveillé de son sommeil cryogénique pour assister à une forme, voilà, alors c'est un terme technique, alors je l'ai pas, parce que bien entendu, genre c'est les conditions du direct de l'enregistrement, mais voilà, il va avoir, on va lui poser quelques questions pour voir où en est sa réhabilitation, voilà, donc c'est un petit check, qu'on fait, et il arrive à se libérer, et il ne sait pas pourquoi, mais il connaît le mot de passe, voilà. Donc il se libère, et il provoque une alerte dans le système, parce que tout le système policier, mais comme il n'y a plus de violence, il est automatisé, imaginez, c'est piloté par Siri ou Alexa, et il provoque, et ça c'est très drôle, parce que quand il tue à main nue, et en mode badass, la moitié des gardes et des médecins qui étaient venus le checker, ça active en fait une balise qui est le code 187. Alors tout le monde connaît, si vous connaissez un peu le cinéma américain, etc., le 187 code meurtre, ouais, c'est aussi un film, le 187 c'est un meurtre. Et dans le film, en VF, ça fait attention, meurtre, mort, détruire. Meurtre, mort, détruire. Et donc il se réveille. Voilà, donc il se réveille de son sommeil, il tue les gens en mode badass, il pique l'œil d'un gars parce qu'il y a des scans rétiniens, tu vois, il met au bout d'un stylo, il s'éclate, et puis il commence à se balader un petit peu dans la ville de San Angeles, et très rapidement, une patrouille arrive sur place pour l'interpeller, et on voit les flics armés de bâtons électriques, donc ce qui peut faire écho au flashball de nos forces de l'ordre aujourd'hui, voilà, donc vous imaginez, vous avez un super terroriste maniant le kung-fu, mec qui s'en bat les reins, et en face de lui, il a 3-4 hommes soja armés de bâtons électriques, et ils suivent l'équivalent de nos smartphones, une procédure, et la voix sur la procédure dire « Alors ?» Pour interpeller le maniaque, assurez-vous, donc il y a tout un guide, voilà, et ça, c'est aussi un écho de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a une vidéo et un guide et un tutoriel pour tout, en fait. Et je peux me permettre de le dire, hein, parce que bossant dans l'enseignement supérieur, c'est ça, hein, on tend vers ça. C'est-à-dire que pour chaque chose, il y a une procédure, un tutoriel, des vidéos, voilà, et ce qui court-circuite quelque part la prise d'initiative. Voilà. Et donc, on a déjà ça dans ce film. Et on est en 93. Et je me dis, mais nous, on voyait ça à l'époque, on rigolait, on se disait, mais jamais ça arrivera. Mais regardez le côté des flics avec des trucs électriques. Voilà, ils se font défoncer. Là, je vous le donne en mille, hein, ils se font défoncer la gueule par Simon Phoenix en 2-4-6. Voilà. Mais si on prend cet exemple-là, c'est pareil. Si d'un côté, voilà, on généralise, je ne prends pas que le cas français, hein, je prends le cas global, on peut avoir, de manière générale, des forces de police sous-armées par rapport à des criminels surarmés. Il y a un déséquilibre. Voilà, c'est flagrant. Et c'est ce qu'on peut constater. Voilà, je ne vais pas développer le sujet. Mais quelque part, c'est ce qu'on va pouvoir constater dans les derniers phénomènes d'émeutes qu'on a, où même, on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin, dans certains quartiers où les flics ne peuvent pas y mettre les pieds, parce qu'ils savent très bien que c'est surarmé derrière, quoi. Voilà. Et qu'eux, ils arrivent avec des flashballs. Qu'est-ce que tu fais avec un flashball, en fait ? Voilà. Ça me rappelle cette phrase qu'il y avait dans le film Alien 2 de James Cameron. Pour si vous l'avez vu, ben ça vous donnera envie de le voir. C'est qu'à un moment donné, on a des Marines de l'espace qui sont surarmés. On leur explique que pour aller désinguer de l'alien, comme ils ont fait leur nid à côté des piles atomiques, il faudra éviter les balles. Et il y a un mec, c'est incarné par Bill Paxton dans le rôle d'Hudson. Il regarde son commandant, il fait « S'il y a une bestiole qui arrive, on fait quoi ? On lui crache à la gueule ?» Voilà, vous voyez, cette réplique, bah, c'est un peu ça. Moi, j'imagine qu'à un moment donné, c'est un peu le sentiment que doivent avoir certains membres des forces de l'ordre quand ils débarquent dans certains quartiers. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de stigmatiser que les quartiers, machin, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que si on prend un certain angle, qui est celui de faire respecter la loi face à des malfrats, voilà, à un moment donné, si le game il est truqué, ça va pas le faire. Et je peux comprendre que certains se disent, voilà, mais qu'est-ce qu'on va faire, en fait, on va cracher la gueule, et puis voilà, et puis après on leur lit leurs droits. Donc on a déjà ça très rapidement. Bien entendu, face à ce criminel qui vient d'un autre temps et dont les hommes d'aujourd'hui ne peuvent pas rivaliser avec on a déjà de suite la perte de testo, voilà, qui est mis en face. Donc très rapidement, comme le dit un ancien flic, un vieux, il dit voilà, pour arrêter un criminel comme lui, un criminel d'une autre époque, il vous faut un flic d'une autre époque. Voilà. Donc il lui dit, alors c'est pas exactement la phrase, mais ça veut dire à peu près ça. Voilà. Et comme le dit Stallone dans le film, un cinglé pour en arrêter un autre. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Donc c'est là qu'ils se mettent en tête d'aller réveiller John Spartan, mais pendant une courte durée. Hein, l'idée c'est ça, hein, c'est de le réveiller pour qu'il puisse les aider à appréhender Simon Phoenix. Et du moment où... Du moment où il réveille Stallone, c'est pépite sur pépite. Donc là, moi, ce que je vais faire, donc je vais me les écouter, mais par-dessus au montage, je remettrai l'extrait en qualité propre. Je vais vous mettre les extraits de dialogue au fur et à mesure, et on va les analyser ensemble quelque part, mais c'est pépite sur pépite. Donc là, on va commencer avec le premier extrait qui intervient en fait dès le réveil de Stallone.
Filez-moi une Malboro.
Oui, bien sûr, tout de suite. Qu'est-ce que c'est, une Marlboro ?
Une cigarette, n'importe quelle cigarette.
Fumer vous fait du mal. Il a été estimé que tout ce qui nous fait du mal est mauvais. Donc interdit. Alcool, caféine, viande, sport de contact...
Vous foutez de ma gueule !
John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage.
Qu'est-ce que c'est que cette connerie ?
John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage.
Chocolat, essence, jouets non éducatifs, nourriture épicée, l'avortement aussi est interdit, de même que la grossesse si vous n'avez pas d'autorisation.
Vous, l'homme des cavernes, cessez de nous jouer le réveil de la belle au bois dormant et mettez-vous au travail. Monsieur Phoenix vient de renaître de ses cendres.
Donc, vous le voyez déjà, en une minute montre en main, c'est pépite. Donc, alors là, dans cette scène, si vous ne l'avez pas en tête, hein, après, je pense que je mettrai les liens des extraits sur YouTube. Comme ça, vous pourrez vous faire... Voilà, je le mettrai dans l'épisode, là, dans le descriptif. Comme ça, si vous n'avez pas le film, vous pourrez au moins vous faire une idée. Mais effectivement, dès la première minute, c'est pépite. Voilà, déjà, alors dans cette scène, donc on a le commissaire, voilà, donc ça c'est celui qu'on entend à la fin de l'extrait. On a celui qui est un peu gauche, c'est le fameux assistant incarné par Benjamin Bratt, et on a Sandra Bullock, voilà. Et donc, voilà, déjà, l'autre il se réveille, il demande une cigarette, une Marlboro, et l'autre il sait pas ce que c'est, voilà, déjà, d'entrée de jeu. Donc, alors, on est sur un cliché. Sur la cigarette, mais c'est ça ce qui définit, parce que là on va prendre l'archétype aussi, l'archétype du héros d'action de cette époque là voilà, il fume des clopes et il boit des coups et ainsi de suite. Donc là il demande une clope, donc l'autre il fait c'est quoi une Marlboro, mais c'est une cigarette quoi, voilà. Donc alors déjà il y a plus de cigarette, et là intervient très rapidement en fait le personnage de Lenina Huxley, et qui lui récite toutes les règles de bienveillance de cette nouvelle société. Donc on y apprend très rapidement que il est interdit tout ce qui nous fait du mal. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas fumer, tu ne peux pas boire d'alcool non plus, donc pas d'alcool, pas de clope, et après, du coup, ça continue à dérouler, c'est-à-dire pas de viande rouge... Vous voyez où je veux en venir, c'est incroyable. Donc, pas de viande rouge, et puis après, il parle directement de l'avortement qui est interdit, et la grossesse aussi, tu vois. En fait, tout est interdit. Donc, vous verrez plus tard que... j'ai un extrait pépite sur les relations sexuelles. J'ai un extrait pépite, mais c'est magnifique. Donc, là, très rapidement, voilà, on lui pose le plot, hein, le chocolat, les jouets qui servent à rien, ce sont pas un but éducatif, etc. Donc, elle lui déroule tout. Et quand il entend ça, du coup, il jure, hein, directement, il dit « qu'est-ce que c'est, connerie ?» Et là, il y a un truc qui se déclenche, et le film est génial pour ça, c'est-à-dire que dans chaque lieu public, privé, dans n'importe quelle pièce, en fait, il y a ce petit détecteur à injure, et qui vous envoie une amende, en fait, financière, pour comme on fait aux enfants, hein, vous savez, le pot à gros mots, ou ce genre de truc, ouais, ils ont une amende, ça fait « vous avez un code d'infraction au code de moralité !» C'est génial. Donc il fait des infractions, et ce qui est fou, c'est que à un moment donné, on entend dans un dialogue que je crois qu'au bout de 2-3 infractions, t'es carrément la police qui vient et qui t'embarque, en fait. Parce que t'as dit des gros mots. Donc, on en est là, en fait. Voilà. Alors, pourquoi moi, déjà, je trouve que cet extrait, il est fabuleux et qu'on y est, en fait. Pourquoi je... Parce que, quelque part, on va déjà dans tout ce qui a été décrit. C'est-à-dire... dans tout ce qu'elle cite, et qui est assez révélateur, en fait, hein, du monde dans lequel on vit, donc c'est-à-dire la viande rouge, voilà, par exemple. D'ailleurs, un autre film a disserté sur ça, et d'ailleurs, son réalisateur avait dit, vous verrez, dans quelques années, vous comprendrez le message. C'était John Carpenter, pour son film que j'ai chroniqué dans 7ème dimension, Los Angeles 2013, alias Escape from LA, où si tu manges de la viande rouge, tu es déporté sur la prison île de Los Angeles, voilà, à peu près. Donc effectivement, cette tendance alors c'est pas nos dirigeants, les dirigeants ils encouragent dans cette direction, mais ils le prennent pas. Mais on va dire que vous m'avez déjà entendu ici, dire ce que je pensais du parti politique vegan, si vous voyez ce que je veux dire, parce que je l'appelle comme ça, parce que c'est même pas un parti politique, c'est l'idéologie carrément. Voilà, on est dans ce truc-là. Donc, effectivement, on n'y est pas encore, mais on pourrait y tendre, et il y a quand même cette idée-là. Qui est martelé dans différentes directions, de ce côté viande rouge, qui serait interdit. Voilà. Alors, pourquoi je trouve que ce film est intéressant là-dessus ? Parce que il est, alors c'est pas moi qui l'ai dit, ça vous pouvez chercher, que la viande rouge, voilà, et comme le café ou d'autres choses, quelque chose d'un excitant quelque part, c'est le carburant, on va se le dire. Et effectivement, quand je parle d'idéologie végane, alors, j'ai dans mon entourage des gens qui le sont, donc après, moi, je le respecte. Du moment qu'ils ne me cassent pas la tête avec, moi, ça se passe bien. Ils le font pour des raisons qui sont les leurs. Bon, alors, les trois quarts du temps, moi, ce que j'ai dans mon entourage, c'est pour le côté des animaux. Bon, Après, voilà, je vous ai toujours dit ce que j'en pensais. Moi, j'ai plutôt une vision des choses de manière globale qu'on appelle naturaliste. C'est-à-dire avec le côté nature, naturel, évolutionniste aussi. Et moi, j'aimerais bien voir ces mêmes personnes remonter le temps. Voilà. Et vous allez me dire, ah, mais aujourd'hui, on a l'été, on s'en branle. C'est-à-dire demain, c'est la fin du monde. Bon, ouais, faudra bien se nourrir. Et je crois pas que ce qu'on ira chercher, ça sera des steaks de soja, les amis. Voilà. Donc, effectivement, comme je l'ai toujours dit, avec diversité, mais nous sommes omnivores. Si on a un système digestif orienté dans cette direction, c'est pas pour rien. Voilà. Donc, et après, encore une fois, ça ne vous plaît pas, faites un procès à la nature. C'est pas à moi qu'il faut le faire. Moi, je ne fais que décrire, encore une fois, des choses observables et avec lesquelles on vit. Voilà, on fonctionne comme ça. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes alimentaires, des allergies à certaines choses. Je peux comprendre, c'est normal, c'est le régime alimentaire. Bon, que tu fasses le choix de ne plus manger de viande pour la survie des animaux, pourquoi pas ? Moi, ce que je remarque souvent, c'est que pour des régimes comme ça, alimentaires, il y a souvent des suivis, et quand il n'y a pas le suivi, ce ne sont pas des gens en pleine forme, hein, quand même. Hein. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, mais c'est quand même une réalité. C'est observable, voilà, pensez-y. Donc, cette volonté d'enlever la viande, on l'entend aussi d'une autre manière. Moi, qu'est-ce que j'ai entendu aussi dernièrement ? Oui, alors, le fait de... voilà, parce que c'est souvent aussi une idéologie qui vient du véganisme, hein, et des, tous les extrémistes de ces mouvements-là qui disent que, voilà, l'agroalimentaire produit du carbone, ça augmente la taxe carbone, blablabla, bla, bla, et du coup, on n'aura plus de couche d'ozone, etc. Bon, maintenant, on va force le dire. Hein. Il y avait un trou dans la couche d'ozone. Moi, j'ai grandi avec cette info. Il y avait un trou dans la couche d'ozone, et puis du jour au lendemain, il s'est refermé. Voilà, posez-vous la question aussi. Il y avait le nuage de Tchernobyl, ça arrêtait à la frontière. Voilà, et soi-disant, on serait tous morts avec les légumes. Bon, je sais pas, enfin bon. Il y a quand même une donnée qui est importante, c'est pour ça aussi. Attention, il ne faut pas non plus que vous taxiez ce podcast de complotisme, mais il faut un petit peu refaire marcher son cerveau. Vous le vouliez ou non, voilà, ça, j'arrêterai pas de le répéter, et je l'avais dit dans le précédent épisode, on n'est pas fait pour rester ici. Voilà. Donc, il est temps, et c'était le message de Nolan dans Interstellar, de lever la tête au ciel et pas de baisser le regard. Voilà, parce que, en fait, en fonctionnant comme ça, on baisse le regard. Donc oui, c'est vrai, arrêtons les sports de contact, arrêtons de manger de la viande rouge, arrêtons de nous reproduire, hein, parce que c'est ça aussi, on entend des conneries comme ça. Hein, voilà, t'as des gens qui disent, oui, nous on préfère ne pas faire d'enfants, on ne voudrait pas leur laisser ce monde tel qu'il est, voilà, un monde horrible. Alors déjà, d'une, si tu regardes l'histoire de l'humanité, je pense pas qu'on soit dans la pire période. On est dans la pire période parce qu'on est dans une période de tristesse. Au niveau du moral, pas dans une période rude, on va dire on n'a pas de guerre mondiale, enfin pas encore, on a pas ces choses là alors j'ai pas dit que je la souhaitais, je dis on sait jamais, en tout cas on est peut-être dans la période la plus longue de paix, donc non c'est pas la pire période, et t'as des bandes de neuneux qui arrêtent de se reproduire pour des conneries, enfin, comme par exemple le climat, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, voilà, le climat, donc voilà, donc revenons au climat, donc effectivement, manger de la viande rouge, ça tue le climat, bon, ben, j'ai envie de vous dire, ben, de toute façon, le climat, il va être tué, avec ou sans nous, donc, voilà, l'idée, qui est peut-être, alors qui semble débile, mais qui est loin d'être conne, c'est le personnage de Samuel L. Jackson, dans Kingsman, hein, voilà, lui, il veut détruire les trois quarts des êtres humains, voilà, comme ça, la planète, elle sera sauvée, ben c'est ça, en fait, c'est ça qu'il faut faire, hein. Si vous voulez vraiment baisser la taxe, enfin pas la taxe carbone, mais le niveau d'émission de CO2, faut détruire le genre humain. Voilà, je vous donne la solution. Voilà, donc réfléchissez-y, parce que là, sinon ça sert à rien. Donc bref, donc il y a déjà cette notion-là en fait par rapport à la viande rouge qu'on retrouvera aussi dans Los Angeles 2013, qui sont des préoccupations. Et j'ai envie de vous dire qu'ils y voyaient clair. Parce qu'on est aujourd'hui là-dedans. Et je vous évite aussi toutes les conneries qu'on peut entendre avec les steaks de moustiques. Les steaks de moustiques, c'est quand même un vrai truc. Hein. C'est pas des conneries. Donc, à Paris, il y a je sais plus quelle chaîne de burger qui est faite par un chef étoilé qui vous vend un burger au steak de moustique. Voilà. Et nous, comme des cons, et nous, on a des cons qui font « C'est génial, bouffer du steak du moustique. » Mais non, attends, écoute-moi bien. On est en Occident, en 2000, bientôt 24. Crois-moi que moi ce que je veux c'est une entrecôte, c'est pas ton steak de moustique. Si c'est ça le progrès, eh ben tu te le gardes et tu te le carres bien profond. Voilà, parce que ça j'en veux pas. Ok. Donc, et même si, parce que ça, moi j'ai regardé des reportages là-dessus d'où ça venait, c'est des populations aussi qui sont envahies par ce genre de nuisibles, qui sont pauvres, donc qui trouvent une solution, mais je vous garantis que s'ils vivaient comme nous, ils n'en mangeraient pas du steak de moustique, hein. Ce qu'ils voudraient, c'est de l'entrecôte. Donc, faut arrêter maintenant les conneries. Donc, voilà. Donc, il y a déjà ce truc-là, et il y a aussi cette notion sur le contrôle de la natalité, et on met déjà en sous-main ce côté. Avortement de grossesse, donc on en vient à se poser la question, bah, qu'est-ce que ça va pouvoir donner est-ce que on est dans l'eugénisme, est-ce qu'il y a ce côté que les humains naissent plus naturellement, et ça c'est quelque chose qu'on verra dans un extrait, alors ce sera pas le dernier mais qui arrivera un petit peu par la suite. Alors du coup moi pour l'extrait suivant on va regarder un truc qui est aussi très intéressant. Voilà. Vous allez voir aussi un petit peu comment sont contrôlés les habitants de San Angeles.
Attente avant instruction. Contrôle voix, Lenina Huxley.
Malheureusement, Simon Phoenix n'a pas été codé. Pendant votre sommeil, chaque individu dans cette ville a été muni d'un code. C'est une brillante idée du docteur Cocteau. Greffer sous la peau une micropuce bio-organique. Dans toute la ville, des détecteurs localisent n'importe qui à tout instant.
Je n'arrive pas à imaginer comment vous faisiez dans la police avant qu'on ne mette au point ce système.
On bossait, mon vieux. Ce truc fasciste me donne envie de vomir.
D'après vous, qu'est-ce qui provoque ces démangeaisons, homme des cavernes? Vous pensiez que nous vous laisserions aller sans contrôle? Votre code a été implanté dès que vous avez été décongelé.
Pourquoi pas une laisse dans le cul? C'était plus simple.
Espèce de sale mangeur de viande. Qu'importe ce qu'a pu être votre monde de barbares, je ne digère pas le fait que vous ayez porté l'insigne de la police. Je vous renvoie là-bas, John Spartan. Oui, je vous renvoie là-bas.
Messieurs, je vous en prie, contrôlez vos hormones. Dans cette situation, nous avons besoin de tous nos cortex disponibles.
Nous n'avons pas besoin du Néandertal.
Bon voilà, je coupe là, mais c'est génial, la VF, elle est magnifique, quoi, et pourquoi pas une laisse dans le cul, voilà. Mais voilà, c'est intéressant, donc c'est-à-dire que bon, il y a le côté, c'était aussi quelque chose qui était présent dans Los Angeles 2013, hein, avec le côté puce, mais effectivement, ils sont pucés, voilà. Ça vous rappelle rien, ça? Voilà. Donc... La puce, donc lui, ce qu'il en pense, hein, ce qu'il dit qui est un truc de fasciste, c'est un petit peu aussi ce qu'on dit des gens de la population française, qu'on a appelé des antivax. Voilà. Donc par rapport à l'application Tous Anti-Covid, qui était une application donc, qui, à la base, permettait de contrôler, voilà, on va dire, la propagation de l'épidémie en elle-même, mais quelque part, c'était aussi une détection et un moyen de contrôle. Donc, on a déjà ce truc-là aussi. Voilà, donc on peut faire un parallèle avec ce qu'on a vu. Donc, ce qui est intéressant, et là je vous soumets l'hypothèse, c'est que ce qui permet à ce monde voilà, où règne la paix, l'harmonie, la dictature de la bienveillance et du langage soutenu, ce qui a permis son émergence, c'est la chute d'un ancien mode de vie qui a pu être permis, on va dire, que, alors je ne vais pas dire grâce, mais à cause du fameux tremblement de terre. Donc nous, le monde qui est le nôtre et qui tend par bien des aspects, et vous le verrez, à se rapprocher de cette société futuriste de 2032 de Demolition Man, nous, ce n'est pas un tremblement de terre. C'est de multiples variables, la plus grande étant les différents confinements qu'on a eus, qui ont redéfini le game et qui ont pu entériner aussi une nouvelle façon, on va dire, je pense, voilà, parce que je réfléchis en même temps que je suis en train de parler. Et oui, ça m'arrive des fois. Donc, ces variables, si on ajoute, en tout cas pour notre cas francophone, donc toutes les multiples vagues de terrorisme, les confinements, maintenant la guerre en Ukraine, en fait, il y a tout le temps quelque chose, et ce tout le temps quelque chose permet à chaque fois un peu plus en sous-main, pour nous en tant que citoyens, de perdre. Voilà, on perd un peu plus le contrôle de nos vies, du coup, à chaque fois. Voilà, à chaque fois, c'est ce qui se passe. Et là, dernièrement, il y a un truc que j'ai vu passer. Alors, j'ai plus le nom, faudra que je le cherche, mais vous devez l'avoir en tête. Il y a une nouvelle appli par le gouvernement, donc qui est, sur le principe, un truc pas trop mal. C'est-à-dire, pour que tu peux la télécharger, c'est comme Tous Anti-Covid, et c'est une appli de signalement située quelque part, qui est géolocalisée, où tu ne te sens pas en sécurité. C'est relié directement avec la police, et la police intervient à ce moment-là. Donc, sur ce fait-là, c'est peut-être pour prévenir les agressions, mais quelque part, c'est aussi un moyen de délation. Voilà. Donc, à se poser la question de qu'est-ce que c'est ne pas être en sécurité, et voir quelles seraient les dérives derrière. Donc voilà, c'est encore un moyen, toujours par nos données personnelles, d'être fliqué. Voilà. Et effectivement, c'est pour ça que je mettais un peu de pause par rapport à la réflexion, parce qu'il y a aussi un autre phénomène. C'est-à-dire qu'en parallèle de tout ça, on a ce phénomène de soft power qui nous inonde depuis des décennies par le biais des États-Unis, notamment ces mouvements, comme je l'ai défini dans le côté séduction, ces mouvements qui cloisonnent les gens, les catégorisent, notamment ce que fait le wokisme, ça ne nous appartient pas en fait. Mais par contre, ça arrive par différents canaux. Ça arrive du coup par les réseaux sociaux, ça arrive notamment des plateformes de streaming comme Netflix véhicule certains de ces concepts. Et même moi qui utilise des IA, c'est ce que je disais la dernière fois à un collègue qui forme aussi là-dessus, je dis putain, c'est fou comme ChatGPT, c'est complètement woke. C'est-à-dire, dès que tu commences à lui poser quelque chose, vouloir créer un visuel dans un sens ou dans un autre, à chaque fois, t'es obligé de prompter vraiment en diagonale pour obtenir le résultat, parce que sinon, ça respecte pas le code de moralité. Voilà, il y a le code de moralité de ChatGPT, de la bienveillance et de la bienséance. Voilà. Donc, effectivement... Aujourd'hui, dans Demolition Man, si t'as envie de te taper une clope avec un whisky, comme je suis en train de faire, par exemple, manger ta viande rouge, tout ça, tu vas avoir des problèmes. Voilà, tu vas avoir des problèmes. Nous, on n'y est pas encore, mais on n'est pas loin, en fait. Déjà, voilà, donc c'était bien de le notifier. Donc, il y a le côté puce, il y a le côté application Tous Anti-Covid. On va voir au travers de notre extrait qu'est-ce qu'il y a de bien sympathique aussi dans cette année 2032.
Cela m'a coûté très cher de recréer un appartement style fin du XXe siècle.
Oui, c'est-à-dire que c'est très...
N'est-ce pas?
Ah oui, c'est...
John Spartan. Il y a, comme vous le savez sans doute, cela a été prouvé, une relation entre le sexe et la violence. Il ne s'agit pas d'un effet causal, mais d'un état général d'excitation neurologique. Et après avoir... observer votre comportement ce soir et le trouble que j'ai ressenti alors. Je me demandais si vous voudriez faire l'amour.
Avec vous?
Mm-hmm.
Ici. Mm-hmm. Maintenant?
Mm-hmm.
Oh, ouais.
Fantastique! J'en ai pour une minute.
Alors, je mets pause parce que cet extrait, en fait, c'est vraiment un passage du film, il est pépite et il y a tout dedans. Donc, déjà, dans le début, donc là, on va remettre un petit peu les plots. Donc, vous l'aurez compris, le personnage de Lenina Huxley fantasme beaucoup sur une époque. Et là, elle a le représentant de cette époque. Et elle l'a vu dans une scène précédente sortir de table en plein restaurant qui est un Pizza Hut. Voilà, donc tout. Et elle lui explique d'ailleurs que maintenant tous les restaurants sont des Pizza Hut. Voilà. Alors ça fait marrer. Ben, pas tant que ça, parce que observer nos villes. Moi, j'entends beaucoup de mes étudiants dire bon, on va se faire un BK ou un McDo. Donc, en fait, quand tu commences à regarder un petit peu autour de toi, donc c'est blindé de McDo, c'est blindé de Burger King et ça fabrique le même produit hein, au final. Hein. Qu'est-ce que c'est un putain de burger hein. Voilà. Et il me semble, alors attention, je suis pas nationaliste ni rien. Moi, j'adore manger un burger, mais je pense que ça serait bien qu'il y en ait peut-être un peu moins, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça fabrique le même putain de produit, hein, c'est-à-dire un burger et le burger, c'est pas français, hein, jusqu'à preuve... Alors, vous allez me dire, ah, mais la pizza, c'est pas français. Et des pizzas, il y en a partout. C'est pas faux. C'est pas faux. Si ça reste comme ça, ça va bien. En tout cas, là, leur futur nous montre quand même que tous les restaurants sont des Pizza Hut. Voilà, c'est génial. Donc, ils vont à ce Pizza Hut et lui, il sent, parce que voilà, c'est un flic à l'instinct, tu vois, voilà, il trahit un peu comme ça, là. Il sent qu'il y a un coup qui se trame et il voit des espèces de mecs un peu déglingués tenter un espèce de... Oui, on peut dire ça, un petit attentat sur un des camions de ravitaillement du Pizza Hut, voilà. Et c'est là qu'on voit une autre frange de la population qui vit dans les égouts, voilà, typiquement. Et donc, il leur met une bonne correction, mais il se rend compte qu'ils sont venus là, en fait, juste pour avoir à bouffer. Voilà. Donc, il commence à voir, le personnage de Spartan commence à voir un petit peu que cette société dans laquelle, en tout cas, le bon côté des choses n'est pas celui-là, en fait. N'est pas ce qui est au-dessus. Voilà. Donc là, il va se rendre compte... En fait, que cette dictature est en étude. Ah, je vais arriver à le dire. Il va se rendre compte que c'est une vraie dictature, voilà, de la bienveillance, et que ça met d'autres personnes au banc de la société. C'est-à-dire que les très riches sont très riches et les pauvres très pauvres. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Donc, elle le voit en pleine action. Elle est surexcitée. Et là. Elle l'invite chez lui, elle lui montre toute sa déco, etc., qu'elle a recréée en hommage à cette époque. Et elle lui parle de phénomènes chimiques, neurologiques. Donc, en fait, elle est en train d'intellectualiser ce qu'on appelle l'attirance, en fait, l'attraction, notamment sexuelle, entre deux êtres. Alors, moi, quand je l'entends parler, là, dans le film, alors, à l'époque, ça faisait rigoler, je me suis dit, mais pourquoi elle parle comme ça ? Moi, ça me fait flipper parce que les Z, donc la génération Z d'aujourd'hui, ils parlent comme ça. Voilà. Si vous regardez n'importe quelle vidéo, on va parler de testostérone, de dopamine, notamment quand ils font de la muscu, prennent de la whey pour contrôler le truc, parce que tu comprends en fait. Et il y en a même certains, voilà, qui ont des théories, hein, c'est-à-dire, voilà, le feed TikTok, en fait, plus tu le regardes, ça déclenche un truc. Non, ils parlent comme des débiles. Voilà, comme des débiles. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, en fait. Voilà. Donc tu pourrais, là où elle aurait pu lui dire, c'est pas le but, parce que sinon il n'y aurait pas de film, mais là où elle aurait pu lui faire comprendre, comme je disais, dans la séduction, par un eye contact, par une manière de se toucher les cheveux, par un langage corporel plutôt ouvert, qu'elle était attirée. Non, elle va expliquer, en fait, tout le phénomène qui se passe. Du coup, c'est ce qu'on appelle un tue-l'amour, en fait. Voilà, quelque part. Voilà. Mais lui, ça rend pas compte. Mais il y a déjà les prémices, en fait. Donc voilà, lui, il se dit, bon, elle parle bizarre, parce qu'elle est dans une époque bizarre. Mais il y a déjà tout le côté d'intellectualiser la chose et de tuer le truc, en fait. Voilà. Donc ça, effectivement, aujourd'hui, moi, quand je vois certains contenus sur TikTok, etc., ils parlent comme ça. Qui parle comme ça ? Voilà. Donc, imaginez-vous, quand vous regardez ces putains de vidéos de merde fabriquées par des cons, parce que c'est voilà, on va se le dire, c'est fabriqué par des cons, et des connes aussi, parce qu'il y en a des deux côtés, hein. Imaginez-vous, comme là, comme le personnage, quand vous regardez ce type de contenu, vous rencontrez une nana ou un mec, là, voilà, et vous allez lui parler comme ça. Oui, alors, je t'ai vu en action, imaginez, c'est une nana, je t'ai vu en action au bar, et la manière, en fait, où tu contractes ton muscle quand tu prends ton verre d'alcool, ça a déclenché une information neurologique, mais personne parle comme ça. Personne parle comme ça. Voilà. Donc, c'est autant con de parler comme ça de ce sujet-là que certains qui t'expliquent notamment l'inégalité dans les rapports hommes-femmes. Oui, alors tu comprends, il y a le giga-chad, alors le giga-chad, il fait ça, mais il n'y a que 20% de... Tu sais, ils te font des diagrammes, en fait. Tu vois, ils te font des diagrammes pour t'expliquer des courbes et des niveaux. Voilà quoi, vous avez compris. Mais on est dans cette ère de con, hein, à faire ces trucs-là. Donc, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, revenons à l'essentiel. Voilà. Donc ça, c'est pour le point de départ, qui est déjà très intéressant. Par contre, ce que ça dit aussi, et c'est ça qui me fait marrer dans ce film, et c'est là où je vais en arriver à mon raisonnement, et qui est quelque chose qui se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire que le personnage de Lenina Huxley, c'est, si on résume bien, c'est une nana où il se passe rien dans la vie, donc elle a besoin, on va parler typiquement là du coup relation homme-femme, et on va parler aussi de nos différences et ce qui nous caractérise, elle a besoin de vibrer, elle vibre pas. Voilà. Et voilà d'où vient sa fascination aussi pour ce côté un peu plus old school. Ceci expliquant aussi un phénomène qu'on a aujourd'hui, c'est, alors qui a toujours existé, donc, mais qui est un peu plus amplifié, parce que forcément maintenant il n'y a plus de contrôle, hein, il n'y a pas de contrôle au niveau de la religion, des familles, les familles n'existent plus, donc il n'y a plus à un moment donné de filtre pour dire bah, ça bien, pas bien, donc en fait chacun et chacune cède, on va dire, à la tendance illustre, quelque part. Donc, c'est-à-dire que plus aujourd'hui on a des, on va dire, des femmes libres, et plus elles vont aller chercher en fait un niveau de testo qui les fait vibrer dans l'autre sens en fait. Enfin, c'est fou, hein, mais c'est la réalité. Donc, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que comme ils ont désactivé la violence, qu'ils n'en mangent plus de viande rouge, que tout le monde reste bien dans les clous, tout ça, et c'est pour ça que le personnage de son coéquipier est très révélateur de ça, et qu'on en a plein aujourd'hui, c'est que ben, c'est pas l'homme soja qui va la faire vibrer, l'homme non violent. Et elle, en fait, du coup, elle commence à le verbaliser, mais elle comprend que John Spartan la tire au-delà de tout, et qu'il est la vibration attendue. Pourquoi ? Parce que il est la virilité. Et qu'est-ce que c'est que la virilité ? La virilité, c'est pas dire espèce de con machin, c'est-à-dire qu'il est droit dans ses bottes, c'est un mec. Voilà, il est avec son full testo, alors c'est exagéré parce que ça reste Stallone, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est oui et non, et c'est pas un espèce de truc entre deux, quand faut y aller, faut y aller. C'est, voilà, il a ce côté droit dans les bottes, viril, voilà, il a envie d'une clope, il boit des coups, machin. Alors c'est peut-être un cliché, mais moi je vous invite à observer les gens dans le réel et à regarder, n'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. Voilà, observez les couples, observez les attractions qu'il y a dans les lieux, et je vous garantis que c'est ça. Et il y a aussi un autre côté que j'ai pu constater, faut pas s'étonner aussi, si on a de plus en plus de couples avec de grandes différences d'âge. Parce que si on se met à la place d'une nana qui est aujourd'hui, allez, on va dire entre 21 et, allez, on peut glisser jusqu'à 28-29 ans, c'est pas étonnant qu'elles aillent vers des gens qui ont une quarantaine d'années ou un peu au-dessus ou légèrement à la frontière, parce qu'elles vont chercher en fait un sérieux, une stabilité, une forme de vérité, de compréhension et de direction qu'il n'y a pas chez les mecs de leur âge ou juste au-dessus, voilà, parce que les trois quarts, je vous le donne en mille, ils sont comme le coéquipier de Sandra Bullock, où ils sont en train de regarder les contenus que je vous ai dit, en train d'expliquer que la testostérone et que le machin et tout ça, t'as juste envie de te tirer une balle, voilà. Donc soit on fait du sport, souvent moi, soit on va à la salle, soit on y va pas, mais arrête de me parler de ton truc là, ton circuit de machin, ta gueule quoi, fais du sport, tape dedans. Moi, l'exemple que je vais vous donner, c'était moi, mon neveu qui a 20 ans, qu'est-ce qu'il m'a raconté la dernière fois là, il me disait oui, là il faut que là, il me parle, voilà, il me dit je vais me mettre au sport, et alors le sport est pas encore fait, qu'il me parle de tout l'espèce de circuit de prise de, et putain c'était tellement long, je dis tu sais, et je lui expliquais un truc, je dis tu sais, c'est pas compliqué, moi quand j'avais 20 piges en fait je me posais pas autant de questions, tu vois, je faisais du sport coup, voilà, et puis avec les darons qu'on avait, il y avait toujours 3-4 brouettes de sable à déplacer les week-ends, t'avais pas trop le temps de te dire oui alors là faudrait que je prenne un peu de la masse, tu tapais dedans en fait, et tu te posais pas la question de la prise de masse ou autre. Ça c'est aujourd'hui. Après je comprends, je m'entretiens, ça j'en ai déjà parlé sur le sport, c'est important de s'entretenir physiquement pour la santé, et puis aussi pour si vous avez envie d'atteindre un certain idéal, vous, physique, visuel, pour vos fringues, pour vous, pour votre plaisir, pourquoi pas. Maintenant, le crossfit est aux hommes, ce que la liposuction et les implants mammaires sont aux femmes, hein, on va pas se mentir, hein. Moi, il y en a plein, vraiment. Alors oui, ils sont larges, hein, mais dans le regard, tu sens la fragilité. Hein. Non, mais c'est pas méchant ce que je vais dire. C'est pas pour les attaquer en disant voilà. Mais moi, je prends toujours cette anecdote. Je vais la dire quand même parce qu'elle est pas mal. Moi, je sors avec une de mes très bonnes copines en soirée. Et j'en vois un qui s'approche, et je me suis dit mentalement, parce que souvent c'est ça. C'est-à-dire quand on sort, que ce soit avec un de mes potes ou avec, avec ma meilleure pote, ils savent pas trop. Souvent quand on est trois, ils savent pas si il y en a un des deux, c'est le mec, ou le frère. Ils savent pas. Et j'aime bien laisser planer le doute. Voilà. Et tu vois, il y en a un, parce qu'on va en parler de ces mecs-là, là, ils m'insupportent. Ils sont en mode supermarché, quoi. Et il arrive comme ça. Et je sais pas, on était en train de discuter. Et lui, il prend le bras comme ça. Et il commence à la tirer pour lui parler un peu plus loin. Et bon, après, elle, ça la faisait rire. Hein, elle le connaissait, elle l'avait déjà vu. Donc, et moi, j'ai voulu faire un test. Je l'ai regardé comme ça. J'ai fait oh. Je regarde, je lui monte la main. Je lui fais quoi là? Et tu sais, je le regarde bien droit dans les yeux comme ça. Juste pour jauger, en fait. Et je lui dis, tu fais quoi là? Vas-y. Je dis, la main, tu fais pas ça. Voilà. Et le mec, il a baissé la tête et il a tourné talon. Il faisait une tête de plus que moi. Hein. Il était plus large que moi. Mais j'ai fait un test. Et là, du coup, j'ai regardé ma pote. Je dis, bah, tu vois, regarde, je te montre un truc. Bah, je te le valide pas, lui, tu vois. Parce que, au contraire, il serait venu, il m'aurait dit, ah non, franchement, il m'aurait fait, genre, non, frérot, ça va, je rigole, ça va, c'est bon, voilà. Il aurait fait un truc comme ça, ça passe. C'était juste pour tester, je m'amusais, en fait, tu vois. Et voilà. Et donc, c'est ces gars-là, quoi. C'est ces gars-là, voilà. Tu vois, j'ai senti dans le regard, il y en a plein comme ça, voilà. Alors, pour les mecs qui m'écoutent, ceux qui sont à peu près câblés correctement, faites le test. Observez ce que je vous dis. En soirée, vous verrez que. Plus c'est disproportionné en termes de volume, et plus on met du volume pour cacher une faille intérieure. Alors on a tous des failles, moi le premier, hein, mais ça se travaille autrement, c'est bon, t'as pas besoin de devenir un phénomène de foire. Voilà. Et c'est pareil pour les nanas, hein, va falloir arrêter aussi, tiens, je fais une petite parenthèse parce que je tape sur les uns et sur les autres. Hein. Là, l'espèce de taille impossible, c'est-à-dire big poitrine, big cul et taille de guêpe au milieu, non, c'est pas une bonne idée. Ça, non, arrêtez de faire les implants, restez comme vous êtes, hein. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces conneries aussi pour coller une espèce d'esthétique complètement biatch de meufs d'Instagram qui finissent à Dubaï pour vous savez pour faire on ne sait trop quoi, mais on se doute un peu, hein. Voilà. Donc grosse parenthèse refermée là-dessus, mais déjà ce premier extrait est une pépite. Alors on va continuer maintenant sur la suite.
Vous avez rompu le contact.
Contact. Le contact, je vous ai même pas touché.
Mais je croyais que vous vouliez faire l'amour.
C'est ça que vous appelez faire l'amour?
Il a été prouvé que le sexe virtuel générait des ondes alpha pendant le transfert digitalisé des énergies sexuelles.
Bon, Huxley, qu'est-ce que vous diriez si on faisait ça à l'ancienne mode?
Oh, c'est dégoûtant! Vous voulez dire... un transfert de fluide?
Non, je veux dire bander, baiser, faire crac-crac-boum-boum, s'envoyer en l'air, quoi!
Cela ne se fait plus! L'échange de fluides corporels, vous savez ce que ça provoque?
Oui, je sais. Des naissances, l'envie de fumer une clope, de manger.
La débauche d'échange de fluides corporels a été l'une des causes majeures du déclin de la société. Après le sida, il y a eu le NRS, et après le NRS, le UBT. Une des premières choses que le docteur Cocteau ait faite a été d'interdire et de gérer tous les transferts de fluides dans le cadre d'un comportement socialement acceptable. Les échanges buccaux ne sont même pas autorisés.
C'est interdit de s'embrasser? Oh. J'embrassais bien, c'est con.
Donc... Alors j'ai un peu accéléré aussi l'extrait parce que la scène est assez drôle, hein. Je vous conseille vraiment soit de voir l'extrait soit de regarder le film, hein, parce que bon voilà, lui il s'attend vraiment, parce qu'elle est part, parce que c'est, on joue un peu sur les codes de la séduction à Hollywood, hein, c'est-à-dire souvent on a le côté voilà, ils ont passé la journée, la femme va aller peut-être mettre une nuisette, en fait il s'attend à un truc comme ça en fait, et tout le monde s'attend ça, même le spectateur, et là elle revient en fait avec une mallette, et dans cette mallette il y a deux casques VR. On est déjà sur l'anticipation de ce truc-là. Rappelez-vous qu'on est en 93. Il y a deux casques VR et elle se met, allez, au moins à 3 mètres de lui. Donc lui, il se dit, bon, pourquoi pas, on va le faire. Et en fait, il se retrouve dans une connexion, voilà, neuronale où il y a une relation entre eux. Mais lui, de suite, il dégage le casque, en fait. Voilà. Et il dit, bon, bah, c'est quand qu'on passe aux choses sérieuses, en fait. Et elle le regarde, et là, on sent toute l'opposition, et c'est là qu'elle lui déroule toute l'explication, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on ne baisse plus. Voilà. Si on baise, ça va être lié aussi à une procréation contrôlée, mais plus d'échange de fluide. Voilà. Donc, on coupe l'ensemble, et ça en dit long, hein. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi moi, ça m'intéresse et que ça me fait rire? C'est-à-dire que elle dit plusieurs choses. Donc déjà, on voit que on parle de sexe virtuel, n'est-ce pas? Ce qu'on a déjà aujourd'hui, hein, quand on parle aussi de l'impact du porno aussi. Parce que le porno, c'est quoi ? C'est regarder un acte sexuel auquel on ne participe pas, en fait. Donc, il y a déjà ce côté virtuel. Et moi, j'aime bien ce côté-là aussi, où quand il met le casque, ça fait un peu écho à moi, mon expérience des sites de rencontres pendant la fin du Covid et juste au sortir du Covid, où très rapidement, je dégage le casque comme ça. On se dit, mais attends, est-ce qu'on peut faire... est-ce qu'on peut aborder quelqu'un normalement, en fait ? Ou est-ce qu'on est obligé de jouer à ce truc à la con, là, à créer le simulacre de l'attraction, en fait. Voilà. Donc là, on a en fait le simulacre du sexe. Voilà. Et ce simulacre du sexe, alors, on se rassure, on couche encore ensemble aujourd'hui. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ça se passe encore. Et je vois les mauvaises langues pour ceux qui arrivent. Mais ça se passe encore. Mais jusqu'à mais pour combien de temps ? Voilà. Parce que quand on voit tout ce qui peut se passer sur les consentements rétroactifs, etc., qui ont tendance à freiner aussi, parce que on va pas se mentir aussi, le côté site de rencontre, là, parce qu'il y en a pour certains, c'est la solution ultime, donc je rappelle hein, quand même que l'humanité s'est reproduite jusqu'à présent sans ça. Moi, quand j'entends, c'est le nouveau mode, non, c'est pas le nouveau mode, c'est un truc à la con flingué, d'une société qui a tendance à se flinguer elle-même. Mais effectivement, on en vient quand on voit le casque qu'a sorti Apple, tout et le fait que tout le monde maintenant passe plus de temps de manière virtuelle que physique, parce que on va pas se mentir, si je fais un épisode sur la séduction, c'est pas parce que j'en ai besoin moi, en fait. Voilà. Alors, je suis pas non plus, comme je l'ai dit, hein, je prends des râteaux comme tout le monde, j'ai donné quelques exemples, mais moi, pour mon compte, j'arrive à me débrouiller, c'est pas le souci. Mais si j'en parle, c'est parce que je constate, chez mes compatriotes, chez mes confrères masculins, que de plus en plus, ils n'y arrivent plus. Voilà, de plus en plus. Donc là, ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai dit pareil, encore une fois, retour du réel d'hier soir, j'en discutais pas plus tard qu'avec une jeune femme de 30 ans, et bon, alors là, du coup, c'est tombé sur les charrons, mais elle me regardait, était dépitée, quoi. Dépitée, quoi. Et ils savent plus faire, c'est naze. Voilà, et comme elle m'a dit, c'est en carton. Voilà, donc ils arrivent, déjà, c'est scandale. Et en plus, les deux étaient relativement mignonnes et se faisaient aborder par de multiples archétypes. Donc, on a eu droit au bodybuildé. Et le bodybuildé, lui, il est arrivé, mais trop full testo, mais tu sentais qu'il était un peu fragile. Et ça marche pas, mais c'était un gros musclé, si vous voyez ce que je veux dire. C'est, voilà. Bon, c'était pas uniformément bien. Donc lui, il s'est ramassé parce que bon, ben, il savait pas aligner plus de trois mots, donc c'est mort. Et puis après, il y avait aussi les autres qui arrivent avec des... Alors, ils sont arrivés à trois. Et en plus, ils se sont flingués tout seuls, parce que moi, j'étais sur le côté, voilà, je discutais tranquille, parce que souvent, moi, je vais vapoter, je bois mon verre, j'observe, je profite, en fait, je kiffe, voilà, je me balade, j'observe, voilà, j'apprends plein de trucs comme ça, et souvent, bon, mais oui, on va pas se mentir, hein, j'ai pas discuté avec des cajots, souvent, quand il y en a une, deux qui sont mignonnes, bah tiens, je tape la causette, mais la causette, en fait, voilà, où j'interviens, j'entends une connerie, je rebondis, voilà, basta, puis après, on discute, mais manière. Et eux, ils arrivent à ce moment-là, et il y en a un qui commence à rentrer dans une espèce de cercle, il fait « Non, mais je voudrais pas te manquer de respect. » Et alors, de suite, il me parle de respect, et comme si elle m'appartenait. Alors déjà, il a commencé à se griller, parce que, voilà, donc non, tu sais pas, donc il y a une autre manière de faire. Et puis, il y en a un autre qui arrive avec un opener, mais flingué, voilà, parce que comme il s'appelait Gabriel, il est l'archange, oh là là, c'est nul, voilà, 2023, c'est pour vous donner le niveau, quoi. Ils savent plus faire, quoi, ils savent plus faire. Et en plus, là-dedans, il n'y a pas de, comme je disais, dans le côté séduction, il n'y a même pas de lecteur de signaux d'intérêt, dans le sens où ces mecs-là sont arrivés comme ça, parachutés, en fait. Voilà. Donc, c'est comme si tu débarques au milieu d'une guerre, tu sais pas qui est l'ennemi, qui est là, tu sais pas. Tu débarques comme ça et tu te mets à tirer dans le tas. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est naze. Ça ne marche pas. Donc, voilà, ils ne savent plus faire. Alors que si... ils avaient observé, s'ils étaient mis à un autre endroit, qu'ils avaient regardé, voir s'il y avait eye contact, voir si ça soutenait le regard, voilà. Déjà, comment dire, se matérialiser à distance dans l'univers de ces deux femmes, peut-être qu'il serait arrivé tranquillement, sans avoir un opener flingué, et ça serait passé. Mais vous voyez ce raisonnement-là ? Mais comme ils l'ont pas, ils débarquent avec perte et fracas, et ils repartent avec perte et fracas. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Alors, je suis pas le mouton le plus malin de la bande. Voilà. Moi, en tout cas, je sais une chose, c'est que j'ai discuté de nombreuses fois avec de nombreuses personnes, j'ai passé un bon moment. Après, comme j'explique souvent, si les variables s'en mêlent et qu'il y a un échange de numéros, eh ben tant mieux. Sinon, ben moi en tout cas, comme d'habitude, je développe mon cercle social. Voilà, je vais prendre mes coups, je profite et puis voilà quoi. Et puis c'est comme ça. Et eux ont fait veste sur veste, râteau sur râteau. Après, je me mets à leur place parce que là ils rigolent, ils sont en mode comme ça. Mais qu'ils rentrent chez eux en fait, ils sont tous pareils. C'est comme vous. Hein. Moi par exemple le dimanche soir, là je suis à l'hôtel, je suis en mouvement pro, c'est cool. J'enregistre un podcast, ça, la vie elle est belle. Hein. Il y en a, elle est peut-être un peu moins. Voilà. Et donc c'est le dimanche soir, c'est la période du mois de décembre, et on pense à tous les râteaux qu'on a pris la veille, et que, mais après ça c'est un autre côté qu'on appelle la dépendance affective, c'est-à-dire que on a peur du silence. Donc voilà, on ne sait pas s'occuper seul, on ne sait pas subvenir à ses propres besoins. Il faut que quelqu'un nous sauve en fait, et cette personne c'est l'autre. Ça fait beaucoup de responsabilités quand même à mettre sur ses épaules. Voilà, petite parenthèse sur la dépendance affective refermée. Donc du coup, il ne baisse pas. Et comme elle lui dit, ben voilà, c'est dégueulasse, c'est répugnant, machin. Donc, à un moment donné, ben, il se prend une veste. Voilà. Et je vais pas non plus tout révéler du film en lui-même. L'idée, c'est pas de faire un podcast de 3 heures, on n'est pas à 7ème dimension ici. Par contre, ce qui est intéressant de développer, c'est que c'est pas pour autant que l'attirance de Lenina Huxley ne sera pas exacerbée. Parce qu'en fait, c'est aussi comme ça. C'est-à-dire que là, il n'a pas cherché à aller dans son sens, si on regarde bien. Bon, même si, de toute manière, un rapport sexuel entre deux personnes, on va reprendre le terme, c'est un échange de fluide, mais il n'a pas été dans son sens, du coup, elle s'est vexée. Ce qu'on comprendrait, ce qu'un homme élevé par une femme se dirait, ah ben non, j'ai mal agi, ben non, au contraire, en fait, t'as bien agi, parce que tu as été dans le sens opposé. Qu'est-ce que ça veut dire, le sens opposé ? Tu es resté droit dans tes bottes, dans ta direction, et tu l'as pas caressé dans le sens du poil, donc au final, il marque des points. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, de manière générale. Donc, même moi, des fois, ça m'arrive de commettre des erreurs, hein, souvent en séduction, comme ça, quand j'aborde. Oui, bon, après, c'est plus fort que moi. Moi, quand je vois une femme qui a des yeux magnifiques, je suis obligé de lui dire, mais je devrais même pas lui dire, en fait. Alors, avec les années, j'en dis de moins en moins, en fait. Avec le temps qui passe, j'ai quasiment plus rien. Après, c'est du trash talk sympathique, voilà, qui reste de la séduction, mais c'est vrai que je ne devrais même pas lui dire qu'elle a des yeux magnifiques, par exemple, parce que tout le monde lui dit. Donc je devrais juste lui dire, t'as des yeux bizarres, voilà, tu vois, ou même pas parler des yeux. Mais effectivement, lui, là où il marque des points, c'est dans ce sens-là. Il va pas dans son sens, chacun rentre chez soi, mais du coup, il marque les esprits. Voilà. Et donc comme il n'a pas été dans son sens, il continue. Donc à un moment donné, voilà, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que en allant dans les égouts, parce qu'il va mener l'enquête, il va découvrir en fait que Wesley Snipes a été décongelé pour buter le chef de la résistance, parce que le chef de la résistance, ce qu'il veut lui, c'est renverser le pouvoir et que tout le monde, voilà, c'est un peu un ultra-gauche si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire, donc il veut renverser le pouvoir. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ce film va raconter au final la chute de cet univers futuriste pour rebattre les cartes dans une direction plus égalitaire, en fait, pour que chacun y trouve son compte. Voilà sur quoi ça débouche, quelque part. Ce qui est intéressant, c'est déjà quand il va dans les égouts, alors dans les égouts, il trouve une bière, tu vois, il s'achète une bière, il fume une clope, et ce qui est bien, c'est que l'acolyte voilà, un peu soja, bah, dès qu'il est dans les égouts, tu vois, il commence un peu à se viriliser, là. Il commence à tirer sur des clopes, etc. C'est très, très drôle. Donc, il y a le côté un peu daron avec le petit frère ou quoi. Non, mais voilà, c'est très drôle. Et il se mange un burger, et à un moment donné, Lina Huxley fait, mais vous mangez de burger, mais c'est fait avec quoi? Et c'est vrai qu'elle lui pose la question, elle dit, vous avez, il n'y a pas de bœuf hein, dans le coin, il n'y a pas de vache. Et l'autre, il demande, c'est à quoi? Et bah, c'est fait avec des rats, en fait, c'est un burger de rats. Et du coup, il met une pause, il réfléchit comme ça, il fait, bon, c'est pas mauvais, un rat burger. Bon, c'est peut-être le meilleur que j'ai mangé. Et il continue à bouffer dedans, allez, s'en bat les couilles. C'est le côté sympa du truc. Alors, tout le monde dirait, ouais, c'est hyper bien, mais ouais, mais c'est à l'ancienne. Voilà, c'est à l'ancienne. Donc, il continue. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est, et c'est là-dessus que je finirai cet épisode un petit peu récréatif, tout en amenant des vérités. Et je vous invite aussi peut-être à m'envoyer en MP ce que vous avez pensé de cet épisode. C'était une bonne idée de mettre des extraits, d'analyser une œuvre comme ça par rapport à un contexte actuel. Si vous avez d'autres idées, bon, après il faudra peut-être que je me colle Fight Club, hein, ça être obligé hein, au bout d'un moment, et il vaut mieux que je le fasse moi plutôt que certains qui le font très mal. Donc ce leader de la résistance, il a, voilà. Et alors c'est rigolo parce qu'il s'appelle Edgar Friendly. Edgar sympa. Donc voilà, il a un discours, eh ben, qui pourrait être celui, au final, parce que moi je m'y retrouve, et beaucoup de, alors parce que je suis pas le seul, hein, d'hommes aujourd'hui, et même de manière globale, qui voient un petit peu la dégénérescence à leur porte, prennent le micro, ou écrivent des livres, ou font d'autres choses, et c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu dans son discours, et c'est vrai que moi, qu'à 93, quand il raconte ce genre de truc, bon, je l'ai mis en mode, bon, ok, révolutionnaire, machin, mais il raconte pas que des conneries, donc, et ça sera le dernier extrait que je mettrai.
Alors, tu crois que tu vas m'avoir, hein? Je vais te dire un truc, ça ne risque pas. Tu diras à Cocteau que je lui pisse à l'arrêt, et oui, c'est comme ça. Tu lui diras qu'il faudra une armée de connards pour se débarrasser de moi. Je m'en fous, j'ai plus rien à perdre.
Je veux pas gâcher ton numéro, mon pote. Mais je sais même pas qui tu es, sans compter que je veux t'emmener nulle part. Alors reste ici, sois heureux, et Cocteau est une ordure.
Hey, mec, faut les virer dehors à coups de pompe. Ils sont ici pour nous espionner.
Attends un peu. C'est toi qui étais devant la Pizza Hut?
Ouais. Qu'est-ce que tu veux?
Je crois que tu fais pas partie des plans de Cocteau.
Cupidité, tromperie, abus de pouvoir, tu parles d'un plan.
C'est pour ça que vous vivez tous là-dedans?
T'as tout compris. Tu vois, si on se fie au projet de Cocteau, je suis l'ennemi. Parce que je pense. Parce que j'aime lire. Parce que je suis pour la liberté d'expression et la liberté de choix. Je suis le genre de mec qui aime aller dans un bon resto et qui se demande s'il va prendre une côte de bœuf ou un pavé de rhum steak géant avec ses frites mayonnaise. Je veux faire du cholestérol, je veux bouffer du bacon, du beurre, des montagnes de fromage, je veux fumer un bon cigare de la taille de la Tour Eiffel dans un coin non-fumeur. Je veux courir tout nu dans les rues, le corps barbouillé de ketchup en lisant Playboy. Pourquoi? Parce que j'en aurais eu envie tout d'un coup. Ouais, mec. J'ai vu l'avenir façon Cocteau. C'est une vierge de 47 ans dans un pyjama beige qui boit du milkshake banane carotte en chantant une pub débile. Vous vous pliez aux volontés de Cocteau là-haut, ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Votre autre choix, vous joindre à nous.
Donc, effectivement, bon, moi, je, voilà, son discours, il est parfait, mais c'est à se demander, c'est pas révélateur de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc, tout ce qu'il raconte, en fait, de... Alors, moi, je le vois à plein de niveaux, hein, comme je vous l'ai dit, hein, que ce soit niveau pro, sociétaire, ce que vous voulez, mais c'est vrai que on a une tendance aujourd'hui à moins faire réfléchir les gens. Voilà. Donc, et ce qui se passe sur X, voilà, donc le réseau social, hein, pour les boomers qui suivent, c'était anciennement Twitter, c'est pas la réflexion Twitter. Voilà. Donc X, c'est pas la réflexion. Mais on a tendance à brider l'esprit d'initiative et à brider la réflexion. Voilà, donc il n'y a qu'à voir, hein. Dès qu'il y a quelque chose un petit peu qui sort de la vague, donc de suite, on a tous les mouvements qui vont aller derrière pour aller taxer de ce truc-là dans un sens ou dans un autre. Donc effectivement, voilà, donc ça je vous le dis, dans la dictature, parce que ça vous pouvez le voir, de la bienséance. Voilà, on est dans ce truc-là. Voilà, donc ce qu'il dit, allez fumer une clope. Alors moi, je fume pas. Alors vous allez dire, fumer c'est pas bon pour la santé. Oui, mais c'est pas bon pour la santé. Il y a plein de trucs qui sont pas bons pour la santé. Hein. Prendre l'avion, c'est pas bon pour la santé, hein, parce qu'il peut s'écraser. Hein. Conduire, c'est pas bon pour la santé. On peut avoir un accident. Donc il y a plein de choses qui sont pas bonnes pour la santé. Donc effectivement, si quelqu'un a envie de fumer, bah qu'il fume. Voilà. Maintenant, bien entendu, si tu fumes à la gueule et que tu veux pas fumer, oui, là, c'est la liberté de l'un. Voilà, ça arrête là où commence celle de l'autre. On est d'accord. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, mais on va de plus en plus loin dans le truc. Moi, par exemple, voilà, là, je suis dans une chambre d'hôtel. Interdit de fumer. Mais si j'ai envie de fumer, c'est moi que ça concerne. Je suis dans la chambre d'hôtel, moi. C'est ma chambre, quelque part. Donc, j'ouvre la fenêtre, machin, je fume chez moi. Pourquoi je fume pas dans la chambre d'hôtel? Est-ce qu'à un moment donné, quand je loue cette chambre, elle m'appartient pas pendant une heure ou deux heures? Voilà. Donc après, t'aères, tu nettoies. Bon, bref, peu importe. On peut rentrer dans le débat, vous allez dire, ah, mais c'est pas bien, machin. Mais effectivement, moi, je le constate à plein de niveaux. Donc, et ce qu'il raconte, c'est vrai. Si j'ai décidé, à un moment donné, de manger tel type de viande à telle heure, comme j'entends, c'est moi que ça regarde. Arrêtez de me casser les couilles. En me disant, oui, mais la viande rouge... Ben oui, ben non, en fait, c'est comme ça. Et c'est vrai que ça rejoint aussi un peu le discours. Donc, oui, c'est vrai que ce film-là aussi, il peut être en miroir de Los Angeles 2013, mais ça, c'est pas dans le film. C'est ce que disait l'acteur Kurt Russell, parce qu'il est aussi producteur et acteur du film, et très bon ami avec John Carpenter, qui disait que, voilà, lui, s'il a envie de fumer et de rouler en moto sans casque, c'est lui que ça regarde, en fait. Voilà, et le côté libertaire de ce truc-là. Et voilà, la réflexion qu'on peut avoir, voilà, parce qu'il est temps de conclure aussi cet épisode, ce film-là, ce qui fait, alors ce qui était une blague, parce que c'est le titre de l'épisode, hein, la blague devenue réalité, la blague de SF devenue réalité, quand on voit ça, c'est à se poser la question de se dire où en est notre liberté individuelle. Où en est notre niveau de liberté? Je crois pas qu'aujourd'hui, parce que là, le monde moderne dans lequel nous vivons, voulu par des corporations capitalistes, alors je suis pas anticapitaliste, hein, je suis entrepreneur, donc je suis moi-même un capitaliste, mais le néo-capitalisme, dans ce qu'il a de mauvais, à un moment donné, c'est à se demander aussi, avec tout ce que j'ai dit sur le soft power, etc., pour raccrocher toutes les variables à l'intérieur, on est moins libre qu'avant, quelque part. Alors, la vraie question, parce que ça c'est une question de philosophie, a-t-on été déjà libre, au moins une fois, dans l'histoire de l'humanité? Ça c'est la vraie question. Est-ce que, pour parler de liberté, d'en avoir moins ou plus, est-ce qu'on au moins on a été libre, à un moment donné? Ça c'est une question qu'il faut se poser comme question. Voilà. Et est-ce que la liberté, c'est un état durable? Voilà. Vous voyez, c'est comme le bonheur. Moi, je pense que la liberté, c'est comme le bonheur. C'est pas constant. Voilà. Donc, c'est quelque chose pour lequel... C'est un objectif, quelque chose pour lequel on se bat, mais c'est pas un état constant, je pense, la liberté. Et aujourd'hui, donc je pourrais conclure avec cette phrase-là, nous ne sommes pas dans un état de liberté. Voilà. Donc, mais par contre, ensemble, en réfléchissant, en continuant à réfléchir, et en continuant à ouvrir notre gueule, ou à s'opposer, ou à dire non, voilà, à certaines choses, eh ben on le maintient. Voilà. Alors après, peut-être que c'est notre spécificité franco-française, aussi. Voilà. Et peut-être qu'il est temps aussi de se raccrocher à l'ADN, à notre ADN, en fait. Voilà. Okay. Voilà, il ne faut pas oublier quelles sont nos racines, parce qu'on a tendance à les oublier. Aujourd'hui, on ne pense plus à l'avant, et l'avant, on y crache dessus. Voilà, donc je vous donne un exemple. Moi qui adore le cinéma, j'irai pas voir Napoléon. Pourquoi j'irai voir Napoléon? Alors moi, je veux dire pourquoi j'irai pas. Parce que c'est un film réalisé par un octogénaire qui est en mode dépression. Ça fait une dizaine d'années qu'il crache sur tout et n'importe quoi. Et voilà, et encore une fois... ce qu'on retient de Napoléon, parce que ça aurait été bien d'avoir les deux côtés en fait, le grand stratège et peut-être l'homme et ses failles, voilà, par exemple, et d'avoir peut-être, alors je veux dire, vers tendre vers une certaine forme d'objectivité, mais aussi d'amener peut-être un portrait intéressant. Donc là, de ce qu'il en ressort, parce que j'ai pas besoin d'aller le voir, hein, de son jeu, déjà en prenant l'acteur, vu la posture, vu ce que j'en voyais déjà sur l'affiche et sur le teaser, je savais très bien que c'était juste pour le plaisir de démonter une icône. Voilà. Parce que chez Ridley Scott, on en est là, aujourd'hui, 80 piges. Voilà. Passé d'ailleurs, il me semble. Ou il va les avoir, je crois qu'il les a passés. C'est le plaisir de se faire une icône et de la défoncer. Voilà. Moi, ça m'est arrivé dans certaines chroniques ciné de. Bah, tiens, par exemple, la dernière que j'avais faite pour 7ème Dimension, Avatar 2, je ne l'ai pas aimé. C'est pas un mauvais film, hein, mais c'est pas un bon film. Voilà. Donc j'ai essayé d'être le plus objectif possible. J'ai essayé de dire là où il était mauvais et là où il était bon. Donc dans la globalité, c'est pas un film génial. Il mérite pas autant ce battage-là. Mais c'est pas, je l'ai pas déboîté, je l'ai pas défoncé. Je suis pas là pour faire du buzz, je m'en fous. Ça sert à rien de défoncer les gens. Comme voilà, il faut regarder le truc. Donc et quand je dis se raccrocher à notre ADN, c'est faut arrêter de baisser la tête. Voilà, c'est se dire bon, ok, effectivement, oui la guerre c'est pas bien. Oui la guerre c'est pas bien. Voilà, la guerre c'est pas bien. Mais la guerre elle est nécessaire aussi des fois. Voilà, parce que des fois on a attaqué, donc il faut riposter. Et des fois aussi on va conquérir, on va étendre aussi, parce qu'on appelle ça un empire. Donc il faut regarder ça, non pas à la hauteur de nos petites vies merdiques, parce que nous on est rien, on est que dalle. Voilà. Donc moi qui prends le micro, vous autres, et n'importe quel youtubeur ou autre, c'est de la merde à côté de Napoléon. Il peut le dire comme il veut, on vaut rien. Donc on peut juste avoir, on va dire, la décence de regarder ça et de voir la globalité, et de se dire, voilà, effectivement, qu'on l'aime ou pas, ça a été quelqu'un d'important. Comme qu'on l'aime ou pas, Steve Jobs a été important. Il y a plein de gens, qu'on les aime ou pas, ils ont été importants, et ce qu'ils ont laissé derrière a dépassé, on va dire, leur propre statut d'homme ou de femme, peu importe. Voilà. Donc c'était bien aussi, voilà, de taper un peu sur Ridley Scott, hein, ça fait du bien aussi, hein, sur ces films à la con. Donc, comment ça se finit ? Et c'est assez drôle, hein, parce qu'au final, ce qu'il emporte, quelque part, c'est que ben, cette société-là n'est pas la solution, et qu'à la fin, eh ben, il l'embrasse à l'ancienne, voilà, et qu'elle trouve ça plutôt cool. Donc, ce que nous dit Demolition Man sur les relations hommes-femmes, on va le retenir, on va résumer, c'est que t'auras beau mettre du sexe virtuel, t'auras beau mettre des applis, t'auras beau mettre ce que tu veux, au final, t'auras beau mettre de la bienveillance, ce qui a toujours marché dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est l'histoire de l'humanité qu'il faut prendre, hein, c'est pas les 10 dernières années. Les 10 dernières années, comme je viens de vous le dire, c'est nul, c'est rien, c'est un détail, voilà, sur l'ensemble. Ce qui a toujours marché, c'est ça, c'est cette complémentarité entre les deux sexes. Et donc, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, une femme très F sera toujours attirée par le côté un peu plus viril, testostéroné de l'homme. Et, voilà. Et la testostérone, c'est pas le nombre de poids qu'on soulève à la salle de sport. Alors ça peut provoquer sa fabrication, si vous voulez. Mais quelque part, voilà, le côté viril de la chose. Donc voilà ce que ça explique, Demolition Man. C'est que tu peux faire ce que tu veux, on en revient toujours aux bases. Voilà. Donc c'est ce qu'il fallait retenir. Et c'est à moi aussi. Alors j'aime pas trop temporaliser. Alors j'aime bien raconter que je bouge, machin, mettre des contextes, mais au niveau des dates. Mais en tout cas, je serai un piètre maître de cérémonie, un MC, comme on dit, hein, derrière le micro, si je ne vous souhaitais pas de bonnes fêtes. Donc, c'est comme ça que je vais conclure cet épisode pour une fois. Donc, ici, à Chronique d'un Quadra, on décomplexe les sujets complexes. Merci pour votre écoute et je vous souhaite à tous et à toutes de passer de merveilleuses fêtes. That's your bitch, that's your bitch, that be deep thrown. We be swiping cars, we be getting money, this we blunt. That's lean dreaming, that seems long. We be roses, time roll with me. You don't go get it, we gon' go get it. All my niggas got it, all my niggas with it. We be bass rivers, we got niggas with it. I make a lot of different money. Chop up a night is at 50 something. But now that the blow, I'm getting caught. Caliber, caliber, caliber. Caliber, caliber, get somebody. Caliber, caliber, hit somebody. Caliber, caliber, rip somebody. Caliber, caliber, caliber. I make a lot of different money. Chop up a night is at 50 something. But now that the blow, I'm getting blown. Caliber, caliber, caliber. Caliber, caliber, get somebody. Caliber, caliber, see somebody. Caliber, caliber, rip somebody.
Comme moi, il faudra bien que tu comprennes tôt ou tard
qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin.
C'était Chronique d'un quadrat, le podcast sans langue de bois qui décomplexe les sujets complexes.